RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
Lorsque l'on évoque les modèles d'éducation alternatifs, l'enseignement Montessori est souvent mis en avant. Mais qu'appelle-t-on vraiment l'éducation Montessori ? Et qui est Maria Montessori, la pédagogue d'origine italienne, qui en est à l'origine ? Alors que vient de sortir récemment sur les écrans le film de Léa Todorov, La Nouvelle Femme, un drame historique sur les débuts de la méthode Montessori et sur la vie de Maria Montessori. Mais je vous propose aujourd'hui d'en savoir plus sur la vraie Maria. Charlotte Poussin, bonjour.
Bonjour.
En compagnie de Martine Gilsoul, qui est, comme vous, éducatrice Montessori, vous avez publié aux éditions des Clés de Brouwer, Maria Montessori, une vie au service de l'enfant. Alors, dès l'avant-propos, vous écrivez que Maria Montessori avait un tempérament riche et complexe. Alors, que contiennent ces deux mots ?
Écoutez, c'est une femme qui a une vie très romanesque et effectivement complexe parce qu'elle est souvent ambivalente. On arrive mal à savoir si elle était catholique pratiquante, comme à certaines périodes de sa vie, ou si elle était théosophe, ou si elle était franc-maçon, ou si elle était tout à la fois. Et le fait est qu'effectivement, elle a eu beaucoup d'étapes dans sa vie, mais qui n'étaient pas forcément successives, mais qui se superposaient les unes aux autres. Donc elle avait une vie très spirituelle, une vie intérieure profonde. Et c'est vrai que le film de Léa Todorov présente 3 années de la vie de Maria Montessori, pendant lesquelles elle a vécu un amour passionnel avec un de ses collègues, avec lequel elle avait créé le centre orthophrénique de Rome, mais elle était très féministe et suite à une relation entre eux et une rupture, elle a tourné le dos à cette vocation et même à la vie de médecin.
Donc, parce que c'est ce qui est important de dire, c'était une, on l'est connue comme pédagogue, mais c'était une scientifique. Et elle est devenue médecin. Ça a été l'une des premières femmes médecins. Il faut situer l'époque. Là, on est au 19e siècle. Hein. Elle est née en 1870. Elle va mourir en 1952. Elle est l'une des premières femmes médecins d'Italie.
Oui, en effet, en 1896, elle est une des 3 premières femmes médecins d'Italie suite à un parcours du combattant. Et elle a eu beaucoup de peine à avoir le droit de le faire. Puis ensuite, la ténacité et le courage de disséquer seule parce qu'il était considéré comme intolérable qu'elle le fasse en présence d'hommes. Elle a eu beaucoup aussi d'études suite aux études de médecine. Elle a continué les études de philosophie, de biologie, de neurosciences, enfin dans cette des neurosciences.
Une femme d'une curiosité, d'une ouverture d'esprit incroyable.
Tout à fait, qui était polyglotte, qui avait fait des études dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France. Et donc c'était une femme qui n'a jamais cessé d'apprendre et de se poser des questions et de lutter aussi pour le droit des plus vulnérables, donc pour le droit de la femme dans un premier
d'abord,
temps.
D'abord, oui, parce que vous dites c'est une féministe, elle fait partie des premières féministes.
Oui, d'où le titre « Nouvelle femme » de ce film. C'était une femme qui était convaincue que la société devait s'inspirer du modèle maternel pour s'améliorer et devait s'inspirer de l'enfant pour améliorer la société. Sa vocation médicale, elle l'avait eue suite à l'observation d'une femme démunie avec un enfant dans les bras dans la rue. Et elle avait eu une sorte de vocation pour faire des études de médecine, mais au service de l'amélioration de la société. Et très rapidement, finalement, elle a cessé d'être médecin pour devenir pédagogue, alors qu'effectivement, c'est le seul métier auquel les femmes pouvaient éventuellement se destiner à l'époque. Donc, elle avait fini par devenir pédagogue, mais...
Alors justement, Charlotte Poisson, comment Maria Montessori a-t-elle démarré, je dirais, dans cette carrière de pédagogue qui fait qu'elle est connue aujourd'hui comme une grande pédagogue ?
Alors, elle a démarré, justement, c'est ce qu'on le voit dans ce film, dans le cadre de l'école d'orthophrénie, l'art de développer les facultés intellectuelles, d'enfants appelés à l'époque idiots ou déficients, qui sont des termes totalement désuets.
Débiles même, hein.
Débiles,
c'est ça. On les appelle débiles.
Et elle leur trouvait une dignité immense, les admirait et les aimait. Elle n'avait pas peur d'utiliser ces termes très maternants. Et elle souhaitait non pas leur donner des soins médicaux, mais des soins pédagogiques. Et donc, c'est en suivant les travaux des 2 médecins pédagogues français, Itard et Séguin, elle était venue aussi rencontrer Bourneville en France, qu'elle a décidé d'utiliser le matériel qu'eux-mêmes avaient conçu pour des enfants porteurs de différents handicaps, un matériel extrêmement sensoriel qui permet d'appréhender les concepts de façon très sensible, sensoriel et concrète.
C'est pour ça que c'est encore très présent dans l'éducation Montessori, cette dimension sensorielle, tactile, fabrication d'objets, utiliser tous ces objets très délicats parfois.
Tout à fait, il y a toute une panoplie d'activités et de matériel Montessori, parce que bon, par la suite, on a fini par l'appeler le matériel Montessori, tant elle en avait développé en plus de celui qu'elle avait réexploité, d'autant plus qu'elle l'a étayé, étalonné tout au long de sa vie, elle et ses collaborateurs, hein, parce qu'elle considérait toutes les écoles Montessori de par le monde comme des ateliers, comme des laboratoires, puisqu'elle a toujours eu cette démarche très empirique et une démarche de recherche. Donc son matériel a évolué et continue encore. Il y a les Montessoriens aujourd'hui continuent à faire de la recherche et à essayer d'améliorer le matériel et à l'adapter au temps. Et donc voilà, c'est vraiment ce matériel qui permet aux enfants d'apprendre par eux-mêmes. Et donc on voit dans ce film la genèse de cette pédagogie avec des enfants porteurs d'un retard mental et qui, grâce à l'appréhension de ce matériel, ont une expérience concrète de concepts abstraits.
RCF, l'entretien de la semaine.
Charlotte Poussin, à quel moment Maria Montessori va-t-elle développer une pédagogie éducative pour tous les enfants et pas simplement pour des enfants handicapés ?
Lorsque les enfants qu'elle accompagne dans le cadre de l'école d'orthophrénie passent le concours de fin des études primaires et ont des résultats exceptionnels, voire meilleurs que des enfants non porteurs du handicap, elle a une sorte de révélation et se demande pourquoi les enfants des écoles traditionnelles sont capés, en quelque sorte, et moins avancés, réfrénés dans leurs apprentissages. Et à partir de ce moment-là, elle se met en quête d'une opportunité de tester ce matériel et son approche, très personnalisée, individualisée, au rythme de chaque enfant, à tous les enfants. Et elle en a l'opportunité en 1907 dans un des quartiers les plus défavorisés de Rome, San Lorenzo, où elle a une cinquantaine d'enfants qui lui sont confiés, des enfants dont les parents les laissent livrer à eux-mêmes pendant la journée parce qu'ils sont travailleurs journaliers et qui dégradent un petit peu l'infrastructure sociale qui vient d'être mise en place. Donc tout le monde y trouve son compte. Elle cadre les enfants et pour elle, c'est l'occasion de tester cette approche nouvelle. Et très rapidement, les enfants apprennent presque de façon spontanée. Comme là, ils ne sont pas réfrénés par des difficultés d'apprentissage, elle les observe spontanément apprendre à lire, à écrire, à compter, et ça relève presque du miracle. C'est un terme qui était employé à l'époque, bien évidemment.
Mais parce qu'on leur laisse une grande liberté.
Une grande liberté. Cette première Casa dei Bambini, cette première maison des enfants, est en réalité un grand espace intérieur, couplé d'un grand espace extérieur, et les enfants peuvent aller d'un endroit à l'autre et utiliser. Alors, dans un premier temps, pas en libre-service, mais très rapidement en libre-service, tout le matériel pédagogique qui est mis à leur disposition sur des étagères.
Ils apprennent en jouant, quelque part.
Ils apprennent en jouant, mais pour eux, jouer et travailler sont des synonymes. En fait, ils ont vraiment le sentiment qu'ils font quelque chose de très sérieux, ils travaillent. Mmh. Et effectivement, quand des observateurs extérieurs viennent leur demander s'ils jouent, ils disent non, nous travaillons. Avec beaucoup de sérieux, ils ont à cœur de partager leurs connaissances aussi avec toute la population du quartier. Et ce sont des enfants dont les parents sont souvent analphabètes et ils vont répandre autour d'eux le désir d'apprendre à lire.
Ça, c'est le tout début. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais comment définir les éléments essentiels de la pédagogie Montessori ?
Alors, ça se résume sur trois piliers essentiels. C'est vraiment un groupe d'âge mélangé, donc les enfants de 3 à 6 ans, et puis ensuite de 6 à 12 ans, selon les plans de développement de l'enfance.
Mais donc pas par classe, comme nous le faisons aujourd'hui.
Exactement, pas en fonction de l'année de naissance, pour qu'ils forment une communauté enfantine, pour que les enfants apprennent entre eux, entre pairs, dans la relation, dans le mouvement. Donc, ils sont libres de travailler seuls ou à plusieurs, de choisir leur activité. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est la présence d'un jeu de matériel complet et officiel. Et le troisième, c'est la présence d'un éducateur formé à une posture, et c'est elle qui est essentielle, une posture de respect profond de l'enfant et d'accompagnement de l'enfant pour qu'il devienne lui-même, parce que c'est ça qu'il faut souligner, ça n'est pas une pédagogie de l'efficacité, bien sûr, elle l'est, et c'est prouvé, mais l'objectif premier n'est pas de faire des enfants meilleurs que les autres, plus efficaces, plus doués, mais des enfants qui se connaissent eux-mêmes, qui s'acceptent tels qu'ils sont, qui aiment progresser, qui aiment chercher, qui cultivent leur curiosité, et qui développent aussi beaucoup de qualités prosociales. avec la conscience du fait qu'ils sont tous interdépendants, et entre eux, et du milieu dans lequel ils évoluent.
Maria Montessori est décédée en 1952 aux Pays-Bas. Je dirais, quel est son héritage aujourd'hui ?
Mais son héritage, justement, c'est cette grande vocation de imaginer une éducation, pas uniquement une pédagogie, mais vraiment une philosophie du respect de l'enfant, une éducation pour la paix, par la paix et en vue de la paix. C'est une femme qui était résolument pacifiste.
Militante pour la paix.
Militante, tout à fait, qui était très spirituelle et qui souhaitait vraiment faire de tous les enfants des citoyens du monde.
Et aujourd'hui, c'est la réalité, il y a 200 écoles à peu près en France, 200 écoles Montessori.
Je pense plutôt 300, 350. Et puis, il y a aussi beaucoup d'écoles, de classes Montessori qui se développent dans le public. Il y a l'association publique Montessori qui fédère toutes les initiatives dans l'école publique. Il y a aussi beaucoup d'écoles sous contrat.
Et dans le monde
Dans le monde, on a du mal à les compter parce qu'il y a tout de même des pays dont l'éducation nationale s'inspire très largement. Hein, les Pays-Bas où Maria Montessori a fini sa vie, on peut être dans la pédagogie Montessori jusqu'au bac, entre autres. Hein, il y a aussi des pays asiatiques, la Thaïlande. On en trouve dans le monde entier.
Moi, j'ai vu les chiffres de 20 000 dans le monde.
Oui, je sais pas si au moins.
Au moins 20 000.
Au moins, je pense.
Merci beaucoup, Charlotte Poussin, de nous avoir présenté la vie, en quelques mots, de Maria Montessori, et puis d'attirer notre attention sur cette pédagogie qui tient vraiment compte de l'enfant et de l'épanouissement de l'enfant. Je renvoie à ce livre que vous avez publié avec Martine Gilsoul, Maria Montessori, une vie au service de l'enfant, un livre publié aux éditions des Clés de Brouwer.
Merci.